Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours et une émission de conte, oui, d'histoire. Ça fait longtemps qu'elle existe. Hein. Je me disais, tiens, quand même, peut-être il faudrait penser à renouveler les animateurs de CFM, prendre des jeunes, peut-être. Hein. En tout cas, c'est Compte à rebours, des histoires, des légendes, des contes. Et depuis quelque temps, on est dans des récits de vie et je vais continuer avec ceci. Pourquoi ? Eh bien, j'ai participé à un événement qui s'appelle Le Temps de Dire dans le Tarn et on écoutait des gens, on écoutait leur récit de vie, on le racontait après à notre vie, dans un autre village, deux jours après. Et voilà, donc on a rencontré beaucoup de monde, on a raconté beaucoup d'histoires, j'en ai quelques-unes encore sous le coude à raconter. Comme ça, ce sont des histoires entendues de ci, de là, sur les routes du Tarn ou du côté de Rabastens. Et puis voilà, mais aujourd'hui, on va plus exactement quand même, précisons-le, aller à Coufoule. Tous ceux qui connaissent un peu la région ont au moins entendu parler de Rabastens, sur les bords du Tarn, en aval de Gaillac. Mais rares sont ceux qui savent que de l'autre côté du Tarn se trouve Coufoule. Comment ? De l'autre côté du pont de Rabastens ? C'est pas Rabastens ? Non, c'est Coufoule. Curieux. Et si nous franchissions ce pont pour aller voir de l'autre côté ce que révèle ce village de Coufoule ? On traverse donc le Tarn sur un beau pont et on arrive un carrefour après la voie ferrée, un feu rouge et le centre du village, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de place. C'est une curieuse ville, tout étalée, quasi pavillonnaire. Voyons un peu plus loin. Tiens, là, sur la droite, Camin Picchu, le petit chemin, allez, on y va. Pas si petit, oh, et là, sur la gauche, chemin du moulin à vent. Tiens, bonne idée, allons voir le moulin à vent. On marche sur une route tranquille, sur la gauche des maisons au milieu des arbres, et sur la droite des arbres, un peu plus loin, des terrains de sport, des prés, des bois. Mais on tourne, on retourne, pas de moulin avant. On finit par arriver devant une maison, c'est la maison de Monsieur Sol. Ah lui, il est bien placé pour nous renseigner. Il est né à Coufoule. Et sa famille est née à Coufoule, une famille de propriétaires terriens depuis des générations. Bonjour Monsieur Sol. Nous sommes là dans le chemin du moulin à vent, on n'a pas trouvé de moulin à vent. Ah, ben c'est qu'il était là avant. Ah voilà, mais vous l'avez vu ? Non. Et votre mère ? Non. Votre grand-mère ? Non plus. Ah bon ? Mais alors comment sait-on qu'il y a un moulin à vent ? Eh bien parce qu'il y a le chemin du moulin à vent. Et puis il y a des voisins quand même qui ont retrouvé des vieilles meules. Mais peut-être on vous en dira plus. Il ne reste que le chemin de ce moulin à vent. Et aussi la vigne, nous dit Monsieur Sol. Il est né juste avant guerre. Et il nous dit que dans son enfance, son oncle avait une vigne là. La vigne du moulin à vent. Et lui, très tôt, il a été attiré par la terre. Il aurait fait un bon agriculteur, dit-il. Dès 10-12 ans, il ne ratait pas les vendanges. Et à l'époque, c'était la rentrée en octobre. Comme ça, tous ceux qui avaient des vignes, et dans la région de Gaillac, ma foi, il y en a, et ailleurs aussi, en France, du reste, eh bien, tout cela pouvait faire les vendanges avant la rentrée scolaire. Lui, il faisait les vendanges à la vigne du Moulin à Vent, avec son oncle. Et puis, c'est pas tout. Les foins, il s'en rappelle aussi, sans tracteur, avec le fanage au râteau. Et le retour de tous les enfants tout en haut de la meule de foin en haut de la charrette. À l'époque, dit-il, on n'avait pas de problème de sécurité. En fait, maintenant, on ne pourrait plus faire ça, quoique je me rappelle m'être cassé la figure. Le labour avec les bœufs, deux gros bœufs, qui travaillaient quelques heures et puis qu'il fallait arrêter pour qu'ils se reposent. Des distractions, ça ne manquait pas. Les bennes dans le tarde, la baignade, la pêche, la chasse. Il était tout petit pour la guerre. Il en a peu de souvenirs, quelques souvenirs, mais vifs. Par exemple, les deux tanks devant et les deux tanks derrière la ferme de son grand-père, bien cachés sous les marronniers. Mais lui, il n'a aucun mauvais souvenir. Il se rappelle même la fois où l'officier, qui était là chez son grand-père, lui a mis le fusil dans les mains pour s'agenouiller et lui lasser ses chaussures. Et la fois où il l'avait amené en balade en jeep à Rabastens, la mère était folle d'inquiétude. Est-ce que c'était un occupant qui essayait d'amadouer l'occupé ou bien un père en manque de ses enfants? Sans doute les deux. En tout cas, il est revenu de sa balade en jeep. Et puis, la libération, il s'en rappelle encore. Il revoit les drapeaux bleu, blanc, rouge planqués dans le grenier et sortis, agités à toutes les fenêtres. À l'école, M. Sol se débrouille bien. Il fait le parcours classique Coufouleux, Rabastens, Gaillac, Albi, Toulouse. Cogito ergo sum, il finit prof de latin, de lettres. D'abord dans l'Aveyron, et puis à Rabastens, 30 ans. Un travail qu'il a aimé pour la liberté trouvée. À l'époque, dit-il, il n'y avait aucun problème de discipline. Aujourd'hui encore, tous les élèves qu'il croise viennent lui dire bonjour. Il entretient des rapports d'amitié avec eux. Bon, on n'a pas trouvé le moulin, mais Monsieur Sol nous apprend qu'au-delà, il y a le champ des pauvres. Et d'où ça vient ce nom-là, le champ des pauvres? Eh bien, il le sait puisque ça vient de sa famille. C'était son arrière-grand-père qui, en 1870, avait été mobilisé, encore une guerre. Et là, comme il avait peur d'y rester et qu'il avait envie de revenir, il a fait un vœu. S'il revient, il fera un don, il donnera de la terre parce qu'il en avait, allez, 2 hectares à la commune. Il est revenu, vite, de la guerre et vivant. Et il a donné ses 2 hectares aux œuvres sociales de la commune. C'est devenu le champ des pauvres. À l'époque, c'était important qu'il y ait des terres communales. Il y avait des gens qui n'avaient rien, et qui avaient quelques bêtes, qui les faisaient paître ici ou là. Ces terrains, aujourd'hui, sont toujours à la commune. Ce sont des terrains de tennis. Et juste après les terrains de tennis, c'est le lieu dit le paradis. D'où vient ce nom? Alors là, nous a-t-il dit, je ne sais pas, mais peut-être si vous demandez à la reine. Quelle reine? La reine de l'histoire de Coufouleux, la reine des archives. Très bien, on ira la voir. Mais monsieur Sol, dites-nous, pourquoi Coufouleux, de l'autre côté du pont? Pourquoi ce n'est pas une seule ville qui s'appelle Rabastens? Ah, monsieur Sol nous amène devant des photos, mais des vieilles photos, puisqu'elles sont datées. Mai 1911. Ouh, ce n'est pas récent. Et qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là? Un pont suspendu de bois. Et on voit même la neige. En mai 1911, il a neigé. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est que le pont est maigre. Il est, bon, en bois, et surtout, il est bombé. Il est bombé. Alors, c'est logique qu'un pont soit bombé, surtout un pont suspendu, sinon il s'écraserait, mais en même temps, ça pose un problème, un pont bombé. Quand il y a une charrette qui arrive d'un côté et une charrette qui arrive de l'autre, eh bien, ni l'un ni l'autre ne voit ce qui se passe de l'autre côté. On ne voit rien, donc on s'engage. Et ce n'est qu'environ au tiers du chemin qu'on aperçoit éventuellement l'autre charrette qui vient à votre rencontre. Or, je vous l'ai dit, c'est un pont étroit. Deux charrettes ne se croisent pas, donc il en faut un qui doit reculer. Ce qui, avec une charrette et un cheval, n'est pas aussi facile qu'avec une voiture. Et alors là, nous raconte M. Saul, il y avait des séances de vocabulaire fleuri pour savoir qui devait faire demi-tour, qui devait reculer, qui devait dételer parfois, parce que certains chevaux n'arrivaient pas à faire marche arrière. Donc, si on résume la situation, ce pont-là suspendu a été construit au début du siècle, vers 1900. Il a été après remplacé par un autre, mais pendant, des centaines d'années, ça a été la rivière Poing. Et pour traverser une rivière, ma foi, il faut se mouiller. Bon, il y avait quelques passages à gué, il y avait des bacs, bien sûr. Mais n'empêche que, bien voilà, il y avait Rabastès d'un côté, Coufouleux de l'autre. Ça n'avait rien à voir. Et bien que l'époque ait changé, que maintenant on ait un pont, qu'il ne soit plus bombé, qu'on ne soit plus obligé de faire demi-tour quand quelqu'un s'engage de l'autre côté en même temps que vous, il reste encore, disons, quelques traces de cette division. Et lorsqu'il y a une proposition qui a été faite il y a quelques années de fusion des deux communes, oulala, il y a eu un tollé, des réactions. J'ai un peu le sentiment que c'est comme pour le tunnel sous la Manche. Rappelez-vous le tunnel sous la Manche, on en a parlé longtemps, oulala. Mais ça a fini par se faire. D'ailleurs, M. Saul en est convaincu. Pour moi, Rabastès, Coufouleux, dit-il, c'est une entité. Nous sommes allés rencontrer la reine dans ses archives, comme nous l'avait conseillé M. Saul. Et elle avait toutes les réponses, ou presque, en tout cas pas mal. Pour le moulin à vent, elle nous a dit, c'est vrai, il n'est plus là, mais on raconte. Ah, on raconte quoi ? On raconte qu'il y a une époque lointaine où au moulin à vent, le moulinier avait une fille. Et cette fille s'est amourachée du fils du moulinier à eau, qui lui était sur le Tarn, un peu plus loin. Ils ont fini par se marier. Et là, bon, il a fallu choisir un endroit pour habiter. Ils ont opté pour habiter du côté du moulin à eau, qui était quand même plus près de la ville. Et puis le moulin à eau, quand même, il tournait plus régulièrement. Le Tarn n'est pas un petit ruisseau de rien du tout. Alors voilà, on s'est installé au moulin à eau. Mais comme il fallait quand même construire une maison pour les jeunes mariés, ils n'allaient pas habiter dans le moulin lui-même. Eh bien, on a pris les pierres du moulin à vent pour faire une maison qui est derrière le moulin à eau. Voilà comment le moulin à vent s'est envolé et pourquoi il ne reste que ce chemin. Et on l'a interrogé encore sur le paradis. Pourquoi cet endroit s'appelle le paradis ? Quel mystère recèle-t-il ? Ah, elle ne sait pas pour le nom même, le paradis. Elle ne sait pas. Par contre, ce qu'elle sait, c'est que cet endroit a été un enfer. Oh, c'était en 1381. Ça remonte, hein. Il y a eu là une fameuse bataille, la bataille des routiers. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? C'était la guerre de Cent Ans, ou la fin de la guerre de Cent Ans. Il y avait le comte de d'Armagnac qui avait mobilisé des mercenaires, comme on appelait les routiers, pour faire la guerre à l'époque. Eh bien voilà, il suffisait d'avoir un peu de sous et vous embauchiez des gens qui, moyennant un petit peu d'argent, pas grand chose, hein. La plupart du temps on leur disait, vous serez payé au moment du pillage de la ville. Et c'est ce qui se passait. Donc on enrôlait comme ça des gens qui étaient prêts à se battre contre les uns ou contre les autres, et lui il avait enrôlé des routiers pour mener sa guerre, mais finalement il avait abandonné les routiers en rase campagne justement là-bas, à Coufouleux. Et ces routiers-là, eh bien qu'est-ce qu'ils faisaient comme on fait, et font encore, hein, il faut le dire, font encore tout les soldats abandonnés, eh bien, ma foi, ils pillent, ils raquettent, ils volent, tout simplement. Et ces routiers, ils étaient quelques milliers, ils dévastaient la région, parce que, bien sûr, il y a quand même une certaine richesse agricole dans cette région, et eux, ils en profitaient bien. Et c'est Gaston Phébus qui est venu avec son armée, figurez-vous, celui-là aussi, on le connaît, et qui a fait, qui a réglé leur compte aux routiers. Il y a eu 3000 morts, quand même, hein. Vous voyez que, donc, en 1381, ça n'a pas été un paradis. Mais avec notre reine des archives, avec notre reine de l'histoire, on apprend beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. En fait, elle adore rechercher dans les papiers, dans l'histoire, mais aussi concrètement dans les trous. Et c'est elle qui a découvert la Sainte Épine, une relique perdue, fort ancienne, qui était dans une sacristie. Mais ce goût pour la recherche des vieilles choses, elle l'a eu dès son enfance, parce que même si elle est née à Paris, elle avait ses grands-parents par sa mère qui habitaient Peine-sur-Tarn, oui, tout près d'ici, finalement, de l'autre côté de l'Aveyron. Et là, vous savez qu'à peine il y a un château, maintenant il a été un peu retapé, mais à l'époque il était carrément en ruine, mais il y avait des souterrains, il y avait des coins, et elle jouait. Son frère était le roi, et elle était la reine. Et donc, la reine nous parle de son enfance. Quand petite, elle venait en vacances à Peine. Oh, pour elle, c'était la belle vie, c'était le rêve. Sa famille habitait Saint-Paul-de-Mamiac, où ils cultivaient le tabac, le lin. Ils avaient des terres jusqu'à Belaï. L'arrière-grand-mère gardait les chèvres. Elle était unique, petite et ronde, dans les 90 kilos, habillée tout en noir, des bas noirs, un grand chapeau de paille, bien sûr, et un grand tablier par-dessus, ça avec une poche. Et c'est pratique, la poche. Quand on est une grand-mère qui va un coup au poulailler, un coup au jardin, on y met toujours quelque chose. Et quand elle revenait, bien elle faisait des oreillettes, du pain perdu, la sanquette avec l'ail et le persil dans la cheminée. Oui, elle se rappelle cette enfance à peine avec bonheur, notamment des veillées, où on critiquait les voisins, on racontait des histoires tout en despeluffant le maïs. Elle se rappelle les battages, les repas, les mariages, tous ces moments où plein de monde était là. Et sa grand-mère était quand même un personnage assez particulier, puisqu'elle gardait les moutons en canne salade et dormait dans une petite gariote en pierre au milieu de la forêt de buis. Elle restait là avec ses deux chiens de troupeau et elle fabriquait du fromage. Toute cette vie l'a inspirée. À 15 ans, au bord d'une mare, elle a écrit un petit livre sur la vie à Saint-Paul-de-Mamiac. L'office de tourisme plus tard l'a édité et l'a vendu, et cet argent a servi à la rénovation de l'église. beaucoup d'autres choses sortent de sa mémoire. Comme, je ne sais pas si vous le saviez, mais on a recherché à l'époque du pétrole dans la forêt de la Grésigne. On en a même trouvé. Des ingénieurs sont venus, puisque c'était la grand-mère qui l'a logé. Ils ont cherché, mais finalement, il n'y en avait peut-être pas assez. Il y avait encore à l'époque dans la Grésigne des charbonniers qui faisaient du charbon. On n'est pas passé directement du charbon au pétrole. Et c'est tant mieux. Mais laissons maintenant ces personnages-là, qui n'avaient pas grand-chose, c'est vrai. Mais au moins, ils ne passaient pas leur temps à engraisser devant la télé en se plaignant de la crise. Compte à rebours, c'est terminé pour aujourd'hui. Les musiques étaient de Zef. Notre groupe aussi de Cahors, qui chantait des chansons de femmes, la Rose Muscade en l'occurrence. Et voilà, c'est tout. Les autres, je n'ai pas eu le temps de les passer, je n'en parle pas. C'était Marco, compte à rebours. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.